La 4G, c'est top, mais qu'est-ce que je peux en faire vraiment?
En profiter à fond. Avec les formules carrées 4G de SFR, l'abonnement à l'application de votre choix est inclus.
Ah, super! Mais c'est quoi comme appli?
C'est vous qui choisissez, parmi les 5 extras de SFR. Icoyote ou Canal Play, par exemple.
Ah, oh, c'est génial!
On préfère dire que c'est extra, et c'est à partir de 30,99€ par mois seulement.
Prix sans mobile du carré 4G 3Go avec engagement de 12 mois valable jusqu'au 31 décembre. Réseau 4G sous réserve de couverture avec offre et terminal compatible. Conditions sur sfr.fr.
SFR, carrément vous.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro 10 du Figaro Magazine consacre un grand
Figaro
dossier.
Figaro Histoire, c'est le Figaro Histoire. Histoire, oui.
C'est vrai, consacre un grand dossier à une civilisation mal connue, celle des Étrusques. Inutile de vous dire que Franck Ferrand s'est littéralement jeté dessus. Bonjour,
et oui,
Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un très bon magazine, vous savez. Il y a longtemps que j'avais envie de vous parler, à notre manière toute simple, d'Étrusques et d'Étruscologie. Le dossier du Figaro Histoire est sous-titré « 7 mystères d'une civilisation disparue ». On dirait un titre pour nos rendez-vous au cœur de l'histoire, finalement. Nous allons donc nous plonger dans l'Antiquité toscane, en compagnie de Michel de Gégère, qui est le directeur de la rédaction du Figaro Histoire, et du professeur Grandazzi, grand spécialiste des origines de Rome.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous allez répondre à la question de Coralie, qui vous demande d'où vient l'expression « trier sur le volet ».
Oui, quand on dit « trier sur le volet », ça fait penser à nos sujets et à nos invités un peu. Eh bien, effectivement, on va essayer de savoir d'où vient cette expression, et vous verrez qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir avec les volets de nos fenêtres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Certains d'entre vous, je le sais, grâce à vos courriers notamment, aiment la nouveauté, l'inattendu, les sujets neufs, les mystères non encore élucidés. Eh bien, si vous appartenez à cette catégorie d'auditeurs, on peut dire qu'aujourd'hui, vous allez être servis, car le peuple dont nous allons parler n'a pas livré tous ses secrets. On peut dire que sur les plans culturels, linguistiques, ethniques, génétiques même, il fait encore un peu figure d'énigme. Les plus grands spécialistes ont tendance à le rattacher à l'air, air au sens de zone, dite vascoïde, par référence à ce peuple basque que rien ou presque ne paraît rattaché aux autres et qui présente, vous savez, tant de singularités. Alors, on peut se poser la question, d'où viennent les gens dont nous allons parler aujourd'hui? On essaiera de répondre à cette première question. Beaucoup d'autres viendront par la suite. Comment se fait-il que la langue étrusque et que cette culture ne présente que si peu de liens avec la langue et la culture indo-européenne? Faut-il admettre que ces gens constituent une sorte d'exception et d'enclave au sein du monde antique, en dépit de leur implantation très centrale, en plein cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la Toscane, région si peu exotique par ailleurs. Plutôt que d'accumuler des questions qui risqueraient de rester sans réponse, je vous propose d'essayer de saisir, à travers toutes sortes d'aspects plus ou moins pratiques, qui étaient ces Étrusques, puisque ce sont eux donc qui retiennent notre attention aujourd'hui. Mais avant d'entrer avec mes invités dans la vie des Étrusques, vous allez voir que c'était une vie, ce que le Figaro Histoire appelle la dolce vita. C'était des gens qui aimaient spécifiquement la vie. On va y venir. J'aimerais vous raconter à titre de préambule comment on a découvert l'existence de cette civilisation, comment on en a exhumé le souvenir. C'est une histoire captivante, vous allez voir, et qui nous ramène quand même assez loin dans ce qui, à notre époque, en France, était encore le Moyen-Âge, mais évidemment, dans les régions dont nous parlons, en Italie, c'était déjà la Renaissance, bien entendu. C'est au cours d'une partie de chasse, on est en 1493, c'est au cours d'une partie de chasse que le pape Alexandre VI, c'est le célèbre pape Borgia, vous savez, hein, celui des deux séries qu'on peut suivre en ce moment à la télé, personnage totalement extraordinaire et qui avait une véritable fascination pour l'art en général et plus spécifiquement pour l'archéologie naissante. C'est au cours d'une partie de chasse qu'il a fait la découverte d'une première tombe étrusque. On est là près de Viterbe. En fait, c'est un dominicain, professeur de théologie, il s'appelait Agnus de Viterbe, qui a on peut dire, organisé cette découverte, parce que le théologien, qui lui-même s'intéressait beaucoup à toutes sortes de vestiges, avait découvert cette tombe et il s'est dit que pour que l'on aille plus loin, pour que l'on mène de vrais travaux, il faudrait arriver à intéresser le pape. Comme le pape devait venir en séjour dans la région et que notamment il devait chasser, parce qu'on sait qu'Alexandre VI était un grand chasseur devant l'Éternel, c'est vraiment le cas de le dire en ce qui le concerne, il s'est dit qu'il faudrait que le pape ait le sentiment de tomber par hasard sur cette tombe et qu'évidemment, il serait tellement fier d'avoir fait une découverte qu'il voudrait qu'on en sache davantage. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors on dit, est-ce que c'est vrai, se non è vero e ben trovato, hein, si ça n'est pas vrai, c'est en tout cas bien trouvé. On dit que le dominicain en question avait carrément dressé un lièvre pour filer entre les pattes du pape et pour aller se réfugier toujours dans cette fameuse tombe. Ce qui fait que le pape, évidemment, voit le lièvre lui passer tout près. Il le suit avec les chasseurs et il arrive devant l'entrée de la fameuse tombe qu'il a, comme ça, le sentiment de découvrir lui-même. Immédiatement, des travaux sont menés, on commence à s'intéresser alors très sérieusement à la question et on commence à s'intéresser aux inscriptions étrusques. Qu'est-ce que c'est que cette langue qui a l'air extrêmement bizarre? On se lance dans le déchiffrage. Notre dominicain va publier un ouvrage à Rome en 1498 qui s'appelle Les commentaires sur les antiquités. On peut dire que, d'une certaine façon, c'est le premier ouvrage scientifique consacré à la civilisation étrusque. Il contiendra 17 volumes, cet ouvrage. Et la théorie, à l'époque de Danius de Viterbe, c'est qu'il existerait un lien entre l'étrusque et l'hébreu. Problème, on soupçonne notre philologue plus ou moins amateur, d'avoir lui-même inventé un certain nombre d'inscriptions, d'avoir lui-même rempli les archives de faux textes anciens et de faux relevés. Seuls quelques érudits vont conserver, on peut dire, le souvenir de cette civilisation, parce que on est quand même à une époque où l'archéologie est tout à fait naissante. Lorsqu'on trouve une tombe, lorsqu'on trouve un site à l'époque, le principal réflexe, c'est de le piller. Simplement, on n'étudie pas de très près les choses et on s'intéresse évidemment aux tombeaux parce que ce sont eux qui présentent la plus grande concentration de richesses. On tourne autour des nécropoles, qui sont généralement situées sous les cités actuelles. Donc, le commerce d'antiquités étrusques se développe déjà à l'époque. Et c'est par les collectionneurs et par cette soif d'accumuler des objets étrusques que la connaissance de cette civilisation perdue va faire peu à peu des progrès. Alors, pour tout vous dire, on est assez flottant dans les attributions encore au XVIe, surtout même encore au XVIIe et même encore au début du XVIIIe siècle. Certaines pièces sont attribuées aux étrusques alors qu'en fait il s'agit tout simplement de vases grecs, par exemple. C'est l'abbé Luigi Lanzi, on est là alors au XVIIIe siècle, c'est lui qui le premier va mettre à jour les vases à figure noire et rouge exposés dans les nécropoles étrusques qui n'étaient pas étrusques. C'est lui qui va, si vous voulez, séparer le bon grain de l'ivraie et dire attention, on est en train de prendre pour étrusques des objets qui en réalité sont grecs. Peu à peu, la connaissance évidemment de cette civilisation et de ses artefacts vont faire des progrès. Au début du XIXe siècle, entre 1828 et 1830, Raoul Rochette va démontrer que les vases dits étrusques ont donc été importés de Grèce comme un certain nombre d'autres objets de luxe. Ce qui, évidemment, est un peu décevant pour ceux qui croyaient avoir fait des collections d'objets étrusques, mais ce qui, à côté de ça, est passionnant parce que ça renvoie les chercheurs et les collectionneurs à ce qui est spécifiquement étrusque. Et alors là, on est devant des choses qui, certes, sont peut-être un peu moins spectaculaires pour nos yeux habitués à l'art classique gréco-romain, mais qui sont tellement plus spécifiques et tellement plus étonnants.
On écoutait Rossini, un extrait du Barbier de Séville. Vous l'aviez bien évidemment reconnu, interprété par le London Symphony Orchestra. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, ainsi que sur les Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH.
Europe 1, 14h-15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et c'est la suite de votre récit, Franck, nous partons à la découverte des chefs-d'œuvre de l'art étrusque.
Et oui, alors j'en ai un sous les yeux, là j'ai fait faire une grande photocopie en couleur de cette célèbre chimère, vous savez, qui est peut-être la chimère d'Arezzo, hein, qui est peut-être le morceau de bronze le plus célèbre parmi tous les chefs-d'œuvre de cet art étrusque. Découverte en 1553, c'est important parce que d'abord, là on est dans un art totalement spécifique, on peut dire que c'est tout pont coupé avec la Grèce et que ça n'a pas grand-chose à voir avec Rome, quoique on verra qu'il y a bien sûr évidemment des points communs. Mais enfin, c'est très particulier. Imaginez une chimère, hein, c'est une sorte de personnage de créature léonine avec des pattes de griffon, avec une sorte de tête d'oiseau qui lui sort littéralement de l'échine. La queue est en forme de serpent. Quant à la crinière, on dirait de véritables écailles métalliques qui peuvent faire penser aux créatures les plus effrayantes des films, vous savez, de heroic fantasy. Hein. C'est très très spectaculaire. Il y a là-dedans un mouvement, une puissance, une ductilité tout à fait extraordinaire, pour ne rien dire de la maîtrise du bronze, hein, qui est tout à fait extraordinaire. Bon, ça va influencer un certain nombre de grands artistes de la Renaissance, Donatello par exemple, d'autres, qui vont... On sait que Cellini était frappé par ces découvertes qui sont faites en plein... Alors, on peut dire qu'ils sont totalement contemporains des découvertes. Et en même temps, ça pose de grandes questions, parce que là, on n'est plus dans les vases dits étrusques qui, en vérité, étaient grecs. Là, on est dans quelque chose de totalement nouveau, qui va, bien entendu, attiser la curiosité des collectionneurs et de ceux qu'on pourrait presque appeler déjà des archéologues, même si, encore une fois, l'archéologie n'en est alors qu'à ses balbutiements. On sait que Côme l'Ancien, par exemple, va se passionner personnellement pour ces questions. Bien d'autres encore. Au XVIIe siècle, c'est un Écossais qui s'appelle Dempster, qui vient enseigner à Pise. C'est lui qui, le premier, va rédiger un grand traité consacré à l'histoire et à la civilisation étrusque. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que à ce tournant du XVIIe siècle, on commence à s'intéresser aux Étrusques non seulement pour tout ce qu'ils ont pu produire, mais aussi pour la civilisation, en tant que telle. Ils deviennent un objet d'étude, en quelque sorte. Alors, je vous fais grâce de toute la liste des traités qui vont se multiplier. On sait que dans la première moitié du XVIIIe siècle, les collectionneurs, ça me fait penser, vous savez, le voyage du président de Brosse en Italie, hein, qui consacre des lettres entières à ces découvertes et à cette espèce de fièvre qui s'est emparée des collectionneurs dans la péninsule italique, ce qu'on avait appelé l'étruscomanie. Les fouilles sont de plus en plus nombreuses, alors un peu partout en Toscane, à Florence, à Cortone, à Volterra, bien entendu. Qui fouille? Eh bien, souvent les érudits eux-mêmes, et avec des méthodes qui sont loin de représenter toutes les garanties scientifiques que nous connaissons nous aujourd'hui, bien entendu, ce qui va poser des problèmes pour certaines datations, pour certaines interprétations, bien entendu, nous allons y venir dans un instant avec nos invités. Un esprit de clocher assez fort anime par ailleurs les inventeurs de trésors, puisque chacun prétend avoir fait la plus belle découverte, et c'est à qui va identifier son chantier de fouilles avec la cité reine, en quelque sorte. On verra ce que sont ces cités étrusques, pourquoi elles sont si nombreuses, comment elles se sont organisées au fil des siècles, etc. On va venir, si vous voulez, au vif du sujet, c'est-à-dire aux étrusques eux-mêmes, dans la deuxième partie de l'émission. Ce que je me contente de faire pour l'instant, c'est de vous montrer à quel point une véritable fièvre, un très grand engouement pour cette civilisation et pour ses vestiges a pu s'emparer de l'Europe cultivée du XVIIIe et du XIXe siècle. Vous savez qu'une académie étrusque avait été fondée à Cortone, à laquelle participent un certain nombre de lettrés de toute l'Europe, y compris notre Montesquieu, par exemple. Bon. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de cet abbé de Luigi Lanzi, hein, qui va organiser en quelque sorte les collections étrusques. Je vous ai dit que c'est lui qui faisait le départ entre ce qui était réellement étrusque et ce qui avait été importé par cette civilisation. Il va notamment mettre au point les salles étrusques de la Galerie des Offices à Florence. Ça joue un rôle très important dans la connaissance qu'on peut avoir, évidemment, de cette civilisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ces recherches et ces traités ne sont pas sans lien avec l'évolution politique de l'époque. Vous n'oubliez pas la période de l'occupation française, hein, notamment le royaume d'Italie, Napoléon. On sait à quel point, du reste, Lucien Bonaparte va lui-même s'intéresser personnellement à la question. J'ai presque envie de dire, c'est une question de mode. Ça fait chic, dans cette première moitié du 19e siècle, de dire qu'on s'intéresse aux Étrusques. Alors, on essaie, évidemment, de se trouver au bon endroit, au bon moment, d'être là lorsqu'une tombe est découverte ou lorsqu'on, par le hasard, parfois, simplement d'un labourage, hein, ou de travaux, de travaux sur les routes, notamment, on met en évidence des vestiges étrusques. En 1827, quatre Allemands font le voyage jusqu'à Tarquinia. Ils vont être vraiment très actifs. Alors, ils font partie de ce groupe, hein, de ce mouvement qu'on appelle les hyperboréens. Ils vont découvrir dans un premier temps la tombe de la mère, puis la tombe des inscriptions, la tombe du baron, la tombe des biches. Vous voyez à quel point, évidemment, cette civilisation va commencer à se faire connaître par le biais d'artefacts qui sont funéraires. Mais c'est souvent le cas, cela dit, dans l'archéologie. Mais ça va, là aussi, jouer un rôle très important dans l'image qu'on va longtemps avoir des Étrusques. C'est très important. Ce qui est frappant pour ceux qui font ces découvertes, et on aimerait être à leur place, vous savez, j'ai la chance, plus modestement, parce que, évidemment, mais quoique, j'ai la chance de participer, moi aussi, à des découvertes archéologiques assez phénoménales en ce moment dans le Jura. Et je peux vous dire que lorsque vous tombez sur une grande faux de bronze, par exemple, c'est toujours un moment très, très excitant, très fort, c'est presque incommunicable. Mais alors imaginez ce que ça peut être lorsque vous tombez sur des décors qui sont peints avec un tuf très, très particulier, des décors qui ont encore conservé leur vernis, leur couleur. On dirait tout ça a l'air d'être d'un naturel et d'une fraîcheur tout à fait extraordinaire. Ces découvertes devaient être quelque chose de merveilleux à vivre. Et puis, je vous le dis, cet art étrusque emprunte constamment à la vie quotidienne, à ce qu'il peut y avoir de plus humain ou de plus, comment pourrais-je dire, de plus vital, de plus vivant en tout cas. Alors, on reconnaît des animaux, hein, un chat ici, une belette là, ou un lézard, mais aussi des ustensiles, des cruches, des couteaux, des tenailles, des éventails, et puis des scènes de vie qui, évidemment, ne vont faire qu'alimenter un peu plus la passion des collectionneurs et des découvreurs pour cette civilisation qui, il faut bien le dire, résiste sur l'essentiel, c'est-à-dire sur sa langue. Arriver à traduire les inscriptions permettrait d'en savoir davantage, mais là, pendant longtemps, ça va être très très difficile.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est la suite de votre récit, Franck Ferrand. Vous continuez à nous faire partager la fièvre des archéologues qui découvrent ces chefs-d'œuvre.
Et de tous ces collectionneurs, bien entendu. Vous imaginez que les princes sont au premier rang et les papes, bien entendu, hein, qui sont très avides de posséder les plus belles pièces. Mais d'une façon plus générale, on voit se répandre ce goût pour l'archéologie étrusque, avec d'ailleurs un changement dans les intérêts. C'est-à-dire que pendant longtemps, je vous ai dit, on cherchait les vases, là, les beaux vases, mais qui n'étaient pas étrusques d'origine. Mais peu à peu, on commence à s'intéresser à de véritables objets étrusques, à des pendentifs, à des bracelets, à des urnes d'albâtre, enfin, etc. Nous allons voir à quoi précisément dans un instant. Alors, cette véritable fièvre, hein, comme disait le professeur Grandadzi qui vient d'entrer dans le studio, cette fébris archéologica va être particulièrement forte dans les années 1830-1840, mais elle ne faiblit pas par ailleurs. Et je vous disais que la grande difficulté, c'était de trouver le sens d'un certain nombre d'inscriptions. La langue étrusque, la philosophie, si j'ose employer l'expression étrusque, l'humour même, puisque vous allez voir dans le cadre de cette émission que les Étrusques n'étaient pas dépourvus d'humour, loin de là, tout ça sera l'apanage des linguistes et des philologues assez récents, je dirais essentiellement au XXe siècle et même jusqu'à nos jours, puisqu'on continue de faire des découvertes assez phénoménales. Pendant très longtemps, on s'en tient essentiellement aux objets archéologiques. Alors, il faut parler de quelques découvertes, évidemment, et notamment celle que va faire Isidoro Falci, qui est un médecin de campagne qui est en Toscane, qui se passionne pour ces questions. Et en 1870, il a découvert une pièce qui le mène au village de Vetulonia. Il pense être sur la piste du fameux 12e village étrusque. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on en a déjà découvert 11 et qu'on a compris que cette Étrurie ne représentait ni un empire, ni un état, mais bel et bien une ligue de 12 cités, sauf qu'on en avait 11. Alors lui, il pense qu'il a découvert la 12e. Il se rend à Voltuna, en Toscane. Il découvre dans ce village un mur où sont visibles des inscriptions étrusques. Alors il aménage des fouilles autour du mur. Et puis, il se rend compte que du temps des Étrusques, ce mur entourait complètement la partie la plus élevée de la cité, où probablement se situait une sorte d'acropole au sens propre, dont la superficie tout de même avoisinait les 16 hectares. L'Étrurie était donc ce réseau de cités. Mais comment est-ce que tout ça s'est créé? Quelle était l'organisation? Quel était le fonctionnement de ces cités? Ça fait partie des questions que nous allons régler dans un instant, bien entendu, avec Michel de Gégère et avec Alexandre Grandazzi. Ce que je veux juste vous dire d'un mot, c'est qu'on s'est rendu compte, à mesure que progressait la recherche et que se faisaient des découvertes, que la zone concernée par cette civilisation était infiniment plus vaste que ce qu'on avait pensé, et que on devait quitter la Toscane pour, dans un premier temps, les Apennins, et puis petit à petit, un véritable arc de civilisation sur lequel nous allons revenir dans un instant, et qui nous fait dire que cette civilisation étrusque est à la fois beaucoup plus importante, beaucoup plus fondatrice probablement, et incomparablement plus brillante que tout ce qu'on avait pu imaginer. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus parler des Étrusques. C'est courageux de la part du Figaro Histoire de faire sa couverture sur les Étrusques, Michel de Gégère, parce que on peut pas dire que ce soit... Ils sont beaucoup moins connus que les Égyptiens, par exemple.
Oui, je crois que la vocation du journalisme, c'est aussi un petit peu de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, et pas seulement se contenter de rester dans des ornières. Donc c'est vrai que l'Égypte pharaonique, c'est formidable, mais il est peut-être bon de connaître aussi d'autres choses, et les Étrusques recèlent des merveilles, des trésors, à la fois dans leur histoire et dans leur histoire de l'art, qui méritent d'être découverts.
Eh bien, nous avons maintenant une demi-heure devant nous pour aller à la rencontre de ces gens très mystérieux.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des Étrusques avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, et Alexandre Grandazzi, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, ancien membre de l'École française de Rome, spécialiste des origines de Rome.
Et de ces Étrusques donc. Alors, il y a énormément de questions. Le grand dossier, on peut dire, du Figaro Histoire soulève 7 questions, mais il y en aurait encore bien d'autres, évidemment. On ne pourra pas tout résoudre, mais la première, celle qui vient évidemment à l'esprit, concerne les origines de ce peuple. Et quand on voit que tout a l'air de naître aux alentours du 12e siècle avant notre ère, on ne peut pas s'empêcher, Alexandre Grandazzi, de penser au peuple de la mer et à cette espèce de grand mouvement qui a complètement balayé le bassin méditerranéen à cette époque.
Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer cette possibilité, parce que pour la science, ce n'est évidemment qu'une possibilité, oui. Mais vous savez que les savants aujourd'hui préfèrent qu'on les appelle des chercheurs, et ils préfèrent globalement les possibilités aux certitudes.
Ils aiment beaucoup poser des points d'interrogation partout.
Voilà. Enfin là, nous avons essayé dans ce numéro, oui. Voilà, du Figaro, de répondre tout de même aux questions, parce qu'il y a tout de même des questions qui ont des réponses. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt extraordinaire de cette recherche, de cette science, ce qu'est l'étruscologie, c'est que malgré toutes les incertitudes qui subsistent, on avance, on découvre, et il y a véritablement une aventure du savoir qui est, je crois, l'une des grandes caractéristiques de l'époque contemporaine.
Alors tout à l'heure, nous allons, si vous le voulez bien, évoquer la vie, ce que l'on peut savoir aujourd'hui de la vie quotidienne des Étrusques, de leur mentalité, de leur façon d'être, de l'organisation de leur cité, etc. Avant d'en venir à ça, continuons peut-être à nous poser de grandes questions. Hein. Alors sur les origines peut-être, parce que je ne voulais pas laisser aller jusqu'au bout.
Sur les origines, les anciens, les Grecs, les Romains, se posaient déjà la question de l'origine du peuple étrusque pour une raison bien simple, c'est qu'ils ne comprenaient pas leur langue et ils étaient surpris par un certain nombre de traits caractéristiques qui n'étaient pas réductibles au modèle grec ou romain.
On est proche d'un modèle, je disais tout à l'heure, vascoïde. Est-ce qu'on peut rapprocher ça des Basques ? Est-ce qu'il y a un lien ?
Le seul lien, c'est qu'on ne comprend pas.
Voilà.
Mais autrement, il n'y a aucun rapport entre le basque et l'étrusque. C'est une clé qui a été essayée.
Oui, c'est
pour
ça.
Elle ne fonctionne pas. Mais le seul lien, c'est que ce sont des langues qui n'appartiennent pas à une famille linguistique connue.
Quand même
en clair,
mystère,
l'étrusque n'est pas une langue indo-européenne. Je rappelle aux auditeurs qu'on appelle indo-européenne une langue ou une civilisation qui est à l'origine, présume-t-on, du grec, du latin, etc. Tout simplement parce que entre le grec, le latin, le sanskrit, l'iranien ancien, il y a des ressemblances structurelles tellement fortes qu'elles ne peuvent pas s'expliquer par une proximité géographique entre les iraniens anciens et les grecs ou les latins, mais par une origine commune. Donc à partir du début de la première moitié du 19e siècle, la science a formulé cette hypothèse, qui est une nécessité, d'une origine indo-européenne. Le latin est une langue indo-européenne, le grec aussi, toutes les langues de l'Europe aujourd'hui, sauf le basque, sont des langues indo-européennes, et l'étrusque n'en est visiblement pas une.
Mais
d'où le mystère.
Alors, question, où en sommes-nous aujourd'hui de la compréhension de la langue étrusque ? Est-ce qu'on a réussi à la décrypter, cette langue ? Et à quel degré, en tout cas ?
Alors là, nous sommes allés de la question de l'origine à la question de la langue, parce que, comme je l'ai dit moi-même, elles sont liées. Les anciens avaient deux théories. Ou bien ils faisaient venir les Étrusques, et donc leur langue, de l'Orient, de ce qu'ils appelaient l'Orient, et qui est pour nous la Turquie occidentale, ce qu'ils appelaient l'Asie mineure. Ou bien ils disaient, comme l'écrit l'écrivain grec Denis d'Halicarnasse, mais qui s'était renseigné sur place, les Étrusques ont toujours été là. Donc il y avait ou bien une
population
thèse...
Population de substrat, là.
Exactement. Et les modernes ont rajouté à ces deux théories, qui les divisent toujours aujourd'hui, une troisième théorie à partir d'une petite remarque de Tite-Live, suivant laquelle les Étrusques pourraient aussi peut-être être venus du nord, puisque effectivement, du côté des Alpes, du côté des lacs de Côme et de Garde, vous avez une langue attestée par une centaine d'inscriptions qu'on appelle le rétique, et ce rétique est une langue très voisine de l'Étrusque. Donc, trois hypothèses, origine du nord, origine locale, indigène ou origine orientale, et je ne vous étonnerai pas en vous disant que depuis 1870, les savants italiens ont plutôt préféré la thèse de l'origine locale, les savants allemands, et ils n'étaient pas de peu d'importance, ont plutôt préféré la thèse de l'origine nordique, et les autres, celle de l'origine orientale.
C'est ça, donc les spécialistes français, dans votre genre, vous préférez l'origine orientale a priori ?
Moi j'appartiens à une génération, j'ai été élève de Jacques Urgon, qui était un très grand étruscologue, et j'appartiens à une génération qui avait décidé qu'il ne fallait pas poser la question des origines.
Pas tranché, oui, voilà.
Et c'est très intéressant d'ailleurs cette décision. Alors c'est une décision qui avait été, je dirais, formalisée par un très grand étruscologue italien qui s'appelait Massimo Pallottino en 1947. Alors vous voyez la date, 1947. Décision qui avait tout à fait sa justification à ce moment-là, parce que du point de vue de la théorie des origines, tout avait été dit et on tombait clairement de la science à la science-fiction. Donc ça n'avait plus aucun intérêt de continuer là-dessus, et Pallottino et ses amis, dont Jacques Urgon, on dit, on arrête, et on s'intéresse maintenant, non pas à la fondation, mais à la formation progressive.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'on a vu que les origines sont quand même bien nébuleuses, qu'en est-il de la fin ? Parce que c'est assez fascinant pour nous, c'est une civilisation qui s'est éteinte, cette civilisation étrusque. Dans quelles conditions et à quel moment est-ce qu'on la voit disparaître ?
Ah ça, on connaît assez bien les conditions de sa disparition. Ce sont des conditions qui sont liées à une situation politique, militaire et sociale. Les trois aspects étant intrinsèquement liés, et ça se passe entre le quatrième, chute de Veii, 396 avant Jésus-Christ, la cité étrusque la plus voisine de Rome, et 264, chute de Volsini, la capitale religieuse de l'Étrurie. Ce qui se passe est très simple, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de ces cités. Et il faut bien que les auditeurs se rendent compte que derrière le mot cité, il faut mettre le mot État. D'ailleurs, nous, spécialistes, nous parlons de cité-État. Chacune de ces cités est un État, avec sa monnaie, son armée, son panthéon, pas forcément le même que celui d'à côté.
Donc c'est un archipel de petits états, en quelque sorte.
Et c'est la division du côté de l'Étrurie, c'est donc la division. Le singulier Étrurie ne doit pas faire illusion.
Et voilà.
Ils savent bien qu'ils parlent la même langue et qu'en gros, ils honorent les mêmes dieux, mais ils sont très divisés.
Oui, voilà.
Ils sont divisés entre eux, et ils sont divisés aussi à l'intérieur même de chacune de ces cités. Les Étrusques, il y a une aristocratie puissante, on peut dire arrogante, et qui opprime une classe servile ou moyenne très durement. Et il y a une division que les Romains ont connue. Rappelez-vous les luttes de l'aristocratie et de la plèbe. Mais les Romains, ils ont eu quelque chose qui va faire bifurquer leur histoire, qui, à partir de ce moment-là, ne sera ni une histoire étrusque, ni une histoire à la grecque. C'est le compromis de 366 avant Jésus-Christ qui fait que les plébéiens et aristocrates se mettent d'accord, un consul pour chacun.
Et voilà.
À partir de là, vous avez un processus d'expansion sans fin.
Ce que n'ont pas su faire les Étrusques, bien sûr.
Ils se sont dilués
dans la civilisation romaine, en quelque sorte.
Alors, c'est très amusant de voir qu'au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, les bonnes familles romaines envoient leurs rejetons apprendre l'Étrusque de l'autre côté du Tibre. Et 150 ans plus tard, c'est le contraire. Les Étrusques envoient leurs rejetons apprendre le latin à Rome. Et quand une classe dirigeante fait apprendre comme langue maternelle la langue du pays et d'à côté, je peux vous dire en tant qu'historien et de Rome et de l'Étrurie, c'est un très mauvais signe.
Oui, et bien ça nous fait froid dans le dos parce qu'évidemment ça fait penser à des époques nettement plus contemporaines, ce que vous nous dites, Alexandre Grandazzi. Tout en écoutant se multiplier ces énigmes, en quelque sorte, Michel de Gégère, je feuillette votre magazine et je me dis qu'il y a, au-delà du caractère très spécifique de cette langue et de cette organisation sociale, un art qui lui aussi est reconnaissable de loin. C'est très particulier, cet art étrusque. C'est très difficile à définir, d'ailleurs. Il y a une rondeur, je parlais de ductilité tout à l'heure. Je sais pas quel terme employer pour parler. Et puis, en même temps, une vitalité, quelque chose de très frais. Qui nous parle.
Oui, ce qui a surpris les contemporains, c'est que l'art étrusque a été découvert par les tombes, qui sont des tombes, un certain nombre de ces tombes sont peintes à fresque. Et Stendhal, par exemple, qui était consul, comme vous savez,
bien sûr,
avec qui entre 1831 et 1842, n'avait pas grand-chose à faire, a passé un certain nombre de ses journées à visiter le pays, et visiter notamment des tombes étrusques, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, venaient d'être mises au jour. Et du spectacle de ces tombes, qui présentent de fastueux banquets, Stendhal avait tiré la conclusion que les Étrusques avaient cultivé l'art d'être heureux et que la conquête romaine avait été au fond un désastre pour la civilisation, leur emprise sur l'Étrurie lui apparaissant comme l'équivalent du saccage de Paris par des régiments de Cosaques. Pourquoi est-ce que Stendhal a cette réaction? Parce que ces tombes, au contraire, si vous voulez, de sarcophages romains qui présentent soit des processions religieuses, soit des armées en bataille, eh bien, les tombes, la scène la plus fréquente, c'est la scène du banquet, où hommes et femmes sont allongés sur des lits, ou la tête couronnée de lauriers, avec des jeunes esclaves nus qui leur servent des mets, des boissons dans une vaisselle précieuse, avec des joueurs de lyre, des joueurs de double flûte, une espèce de flûte étrange où on souffle dans deux becs à la fois, accompagnant donc le repas en musique, il y a des danseurs, des jongleurs.
Et des lutteurs aussi.
Des lutteurs, des boxeurs,
etc. Même,
d'autres fois, les spectateurs assistent à des compétitions sportives, à des courses de chars. On parlait de Rome, mais Rome, la course de chars telle qu'on la connaît comme une spécificité romaine, bien vient, Rome l'a emprunté aux Étrusques, des jeux athlétiques, des disco-balls, etc. Et donc, on a l'impression d'une. Ce spectacle a donné le sentiment que ce qui exaltait les Étrusques, c'était le bonheur de la vie quotidienne, au contraire de ce qui avait pu se passer à Rome, plus dévoué au service de la cité.
Oui, c'est ça. Quelque chose d'un peu moins altruiste et de peut-être plus vivant, en tout cas. C'est l'impression que ça peut donner.
Et alors ça a entraîné une espèce de légende, c'est la légende de la mollesse de l'Étrusque qui aurait été justement à l'origine des malheurs de l'Étrurie, où les gens auraient passé leur temps en banquet, etc. Et tout ça repose sur un certain nombre de contresens, parce que il s'agit de tombes, et ces tombes sont marquées par des rituels funéraires. Et le banquet, notamment, est un banquet funéraire, c'est un rituel.
Oui, ça ne veut pas dire qu'ils passaient leur vie dans les banquets, évidemment.
D'autre part, ces tombes sont des tombes aristocratiques, sont des tombes princières, il y a 5% des tombes étrusques qui sont peintes, donc ce n'est pas les tombes de tout le monde.
Alors, quelles étaient justement les occupations de ces Étrusques? Comment vivaient-ils? Que sait-on de leur existence? C'est ce que nous allons voir, essayer de découvrir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Rossini sur Europe 1, un extrait de La Pivoleuse interprété par le London Symphony Orchestra.
Alors il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, Alexandre Grandazzi, et qui est important quand même quand il s'agit de s'intéresser à une civilisation ou à un grand chapitre du passé, c'est celui des figures historiques, des personnages. Est-ce qu'il y a des Étrusques célèbres en quelque sorte? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous en connaissez?
Oui, je les ai même rencontrés.
Voilà.
Alors, ils sont très présents dans l'histoire de Rome à partir du 6e siècle avant notre ère. Mm-hmm. Les rois de Rome qui règnent sur Rome entre la date conventionnelle et peut-être pas totalement conventionnelle du milieu du 8e siècle, 753, jusqu'à 506 avant Jésus-Christ, la deuxième partie de cette royauté romaine est occupée par des personnages qu'on appelle les Tarquins, qui viennent de Tarquinia et qui donc sont d'origine en partie étrusque, en partie seulement parce que le Tarquin qui serait venu, dit la mémoire romaine de Tarquinia, aurait eu un père corinthien, Démarate. Et il semble qu'il ait été en fait d'une famille royale de Corinthe. Chassé par la Révolution, il va à Tarquinia et ensuite émigre à Rome. Donc c'est une origine mi-étrusque, mi-grec, mais c'est bien représentatif de véritables brassages ethniques que connaissent cette Méditerranée à l'époque archaïque. Et ces Tarquins vont régner à Rome. La tradition antique en mentionne deux, et au milieu desquels elle met un roi Servius Tullius, dont elle dit parfois qu'il a une origine étrusque, parfois une origine latine. Mais aujourd'hui, les spécialistes pensent qu'il y a eu plus que deux Tarquins au pouvoir à Rome. Donc vous avez ces rois qui ont une grande importance pour Rome, puisque ce sont eux qui la dotent de la Cloaca Maxima,
du grand système d'égouts,
et surtout de la muraille qui lui donne son indépendance. Mm-hmm. Et puis après, vous avez, une fois qu'ils sont partis dans des conditions un peu obscures, vous avez un personnage qui est un étrusque de Chiusi, à 80 km au nord de Rome, qui a une très grande importance et qui est Porsena. Et le roi Porsena descend en fait conquérir Rome, et c'est lui qui vraisemblablement a chassé les Tarquins, et non pas, comme le diront ensuite les Romains, le peuple romain. La réalité, c'est que la monarchie romaine a pris fin, non pas suite à une révolution du peuple romain, comme les Romains eux-mêmes aimeront à le raconter, mais suite à une invasion étrangère. Et la République, deux consuls à la tête de la République, ça a été très probablement au départ deux hommes de confiance, deux gouverneurs laissés là par Porsena pour gouverner Rome. C'est ça le paradoxe des conclusions de la science par rapport à ce que disaient les Romains sur leur passé le plus ancien, c'est que l'héritage finalement que les Étrusques ont laissé à Rome, ce n'est pas la royauté, mais c'est la République.
Mais ça change tout, ça, parce qu'effectivement, on a pensé pendant très longtemps que la royauté romaine était étrusque, alors que vous nous dites que c'est l'inverse qui se passe.
J'exagère un peu en disant que c'est l'inverse, mais du côté de la République, effectivement, il y a
un personnage que connaissent nos auditeurs forcément, qui fait partie de l'entourage de l'empereur Auguste, qui a été un personnage essentiel, le plus grand et le premier des grands collectionneurs romains, peut-être, c'est Mécène, tout
simplement.
Exactement.
Alors Mécène, on retrouve dans sa personnalité fascinante, il est très doux. Il est capable aussi bien d'écrire des vers, on en a gardé 4 ou 5 et on voit que c'est une esthétique assez baroque, aussi bien d'écrire des vers que sans doute de dessiner, et il a un goût très sûr en matière de peinture et de sculpture, et on reconnaît là les traits d'un aristocrate étrusque, n'est-ce pas, qui aime le luxe et le raffinement. Et Mécène, c'est le découvreur des talents pour le comte d'Auguste. C'est lui qui découvre Horace, c'est lui qui découvre Virgile, et c'est lui qui réussit à persuader Properce d'écrire le quatrième livre de ses élégies en faveur dans une tonalité pro-augustéenne. Donc Mécène a un rôle très très important, et on parle encore aujourd'hui du mécénat.
Évidemment, oui, c'est son nom qui est à l'origine de cette notion, bien entendu. Il y a une exposition qui évidemment va avec ce magazine, Michel de Gégère. C'est l'exposition Étrusque, un hymne à la vie au musée Mayol. L'exposition a lieu de là, elle est ouverte depuis une dizaine de jours et elle sera jusqu'au 9 février 2014. Cette exposition permet de découvrir un certain nombre de chefs-d'œuvre.
Une très belle exposition dont le sous-titre est Un hymne à la vie. Donc vous voyez, voilà, on est vraiment
dans cette idée, hein.
Dans le thème de l'art de vivre et de la vie quotidienne avec la présentation de vraiment de chefs-d'œuvre, beaucoup venant de Rome, de la Villa Giulia, mais qui est le musée étrusque de Rome, mais aussi de d'autres musées européens avec un certain nombre de très beaux objets, de bijoux, de candélabres, de fermoirs, de vases, dont certains tout de même sont étrusques.
Oui, il y en a quand même aussi, oui.
De figures sculptées, de bronzes, parce que vous savez que vous avez parlé tout à l'heure de la chimère d'Arezzo, mais les bronziers étrusques ont été célèbres, même après la disparition de l'Étrurie, la disparition politique de l'Étrurie.
Il y a
eu
une
tradition. Et donc, de très beaux bronzes, des figures de terre cuite aussi, car les temples, l'une des choses que les Étrusques ont légué à Rome, c'est la forme du temple toscan qui va devenir le temple romain et dont la toiture était surmontée de statues de terre cuite. Donc il y a un certain nombre d'exemples de figures à la fois de bronze et de terre cuite qui sont présentées au musée Magnol.
Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à prêter à travers tous ces très beaux objets et puis toutes ces scènes peintes sur les murs des tombes notamment, à prêter aux Étrusques un certain nombre de pratiques ou une modernité en quelque sorte qui est plutôt une projection de nos propres fantasmes?
Alors, certainement. À côté de ça, il y a quelque chose de très spécifique aux Étrusques, c'est l'égalité, enfin la position de la femme. Mm-hmm. Si vous voulez, l'une des origines de la réputation de débauche des Étrusques, c'est que les femmes étaient admises aux banquets, alors que ça ne se faisait ni en Grèce ni à Rome, et on a supposé du coup que ces banquets étaient des lieux de mauvaise mœurs et de luxure, etc., parce qu'il était impensable que la femme soit l'égale de l'homme, ce qui était le cas chez les Étrusques.
Alexandre Grandazzi, il vous reste exactement 30 secondes pour nous répondre à cette question qui restait en suspens tout à l'heure. Comment cette civilisation a-t-elle disparu ?
Elle a disparu avec Rome et elle s'est maintenue dans la sphère religieuse aussi longtemps que Rome a duré. Les Romains, qui aimaient, profiter des compétences des peuples dont ils faisaient la conquête, lorsqu'ils se sont emparés de l'Étrurie, ont introduit les prêtres étrusques, notamment ceux qu'ils ont appelés les Aruspis, dans la religion romaine. Et il faut savoir qu'en 410 de notre ère, lorsque Rome est assiégée par Alaric, les autorités chrétiennes de la ville,
jour, oui,
en désespoir de cause, font appel à des prêtres étrusques,
décidément,
pour essayer d'arrêter l'envahisseur.
Ils ont dominé Rome, les Étrusques, sept mystères d'une civilisation disparue. C'est le numéro 10 du magazine Le Figaro Histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, aujourd'hui à la question de Coralie sur Facebook qui demande d'où vient l'expression trier sur le volet. Rien à voir avec les volets des fenêtres.
Non, ça va être vite réglé cette fois-ci, parce que là, vraiment, c'est très simple. Vous savez, au Moyen-Âge, ce qu'on appelait un volet, ou un voilet d'ailleurs, parce que souvent il y avait un Y en plus, c'était un petit voile fin et léger. On parlait aussi d'une volette. Et ça permettait, c'était un tamis tout simplement, et un tamis qui permettait tout simplement de trier des graines. Et plus tard, le mot a perduré, au 14e, 15e, ce qu'on appelle un volet, c'est une sorte de petite assiette de bois qui sert elle aussi de tamis et sur laquelle les femmes ont l'habitude de trier les pois pour la cuisine, tout simplement. Donc trier sur le volet, ça vient très précisément de là. Vous voyez que l'explication est assez simple, mais c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir avec les volets, les contrevents et toute l'armature des huisseries et des fenêtres. Le trier sur le volet, c'est tout simplement trier des poids notamment, mais pas seulement, sur un tamis. Voilà. Merci beaucoup à nos invités. Et je rappelle qu'Alexandre Grandazzi est notamment l'auteur des Origines de Rome. Ça, c'est un que sais-je incontournable au PUF, bien entendu. Et puis, La Fondation de Rome, un ouvrage aux belles lettres. Merci à Michel de Gégère. Longue vie au Figaro Histoire. Et pourvu que les Étrusques passionnent nos éditeurs, parce qu'ils le méritent. Je trouve que c'est une belle civilisation. C'est très passionnant. Et puis, merci à Nicolas Six, qui est aux manettes dans cette émission. Vous savez, et je voudrais vraiment dire un grand merci à Lorena Martin et à Marion Sauveur qui se démènent, qui font un travail extraordinaire. On ne les voit jamais, on n'en entend pas parler, mais ce sont elles, ne l'oubliez pas, qui font cette émission. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Un bisou à Lorena et Marion, qui font c'est vrai pas mal de choses. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous allons lever le voile sur les médicaments que nous pouvons désormais acheter sur Internet. Comment les acheter en toute sécurité? Savez-vous ce que vous achetez d'ailleurs? Vous pouvez nous poser vos questions ou témoigner au 3921. C'est toujours 34 centimes d'euros la minute. Europe1.fr, c'est toujours gratuit et c'est dans un instant sur Europe 1, Franck.
Merci beaucoup Elena. Et donc nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec grand plaisir, à demain Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.